Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le 7 décembre 2018, il est 4h57, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui,
on va danser toute la nuit.
Ou simplement dormir, hein, pour ceux qui n'ont pas l'énergie pas de Céline Dacosta. À tous, je dis néanmoins... Et pour vous guider tranquillement vers ce week-end, je crois que vous connaissez la rampe de lancement idéale, conjuguant l'information et la bonne humeur contagieuse. Oui, vous écoutez. Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire avec mes complices fidèles, professionnellement en tout cas, Céline Dacosta et Eva Rock. Bonjour mesdames.
C'est pour le professionnel ou pour le fidèle que vous avez dit ça?
Pour les deux. Vous choisissez. Eva, chaque matin vous posez une question pas du tout tirée par les cheveux à nos auditeurs. Non. Hier c'était, je cite, on est la Saint-Nicolas, qu'avez-vous envie de souhaiter à Nikos? Donc si je suis votre logique aujourd'hui, comme c'est la Saint-Ambroise, vous allez demander à nos auditeurs s'ils aiment la brunoise, je ne sais plus avec vous, dites-nous.
Mais vous êtes d'une mesquinerie absolue, c'est la journée de l'aviation civile. Alors dites-nous ce que vous aimez le plus quand vous prenez l'avion ou au contraire toutes vos phobies. Et on a quelques histoires pas mal, vous allez voir.
D'accord, pas mal. Et ça va pas me faire peur parce que je suis hypochondriaque et j'ai aussi peur de l'avion.
Oh, ah là là.
J'ai vraiment toutes les tares.
Ah mais une plaie ce garçon.
À vos côtés, jour après jour Eva, on en sait un peu plus de Céline Dacosta. Au gré des confidences, se dessine en effet le portrait d'une femme parfaitement bilingue.
I mean, I wanna shame on you.
Gourmande.
Ouais, mais j'ai faim moi maintenant. Tout me donne envie là. Enfin, peut-être pas tout, mais...
Avec un faible pour les grosses cylindrées.
J'ai une saxo moi.
Ah, une saxo.
Justement Céline, est-ce le moment de monter les pneus hiver sur la saxo? Quel temps sur le pays aujourd'hui?
Ah, je ne l'ai plus maintenant, mais il va pleuvoir. Effectivement, sur les trois quarts du pays, il reste encore du soleil près de la Méditerranée. Et puis ça va remonter aussi sur le flanc est, on en parle tout à l'heure.
Attention donc à l'aquaplaning. Merci Céline, c'est tout pour le moment, rien d'autre à ajouter?
Je l'aimais beaucoup ma petite saxo.
Oui, bon, rien de crucial, donc on peut y aller. Debout les copains, dernière ligne droite avant le week-end, c'est parti.
Et nous sommes le vendredi 7 décembre, bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1. Très bon réveil à notre écoute, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 7 décembre, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Les titres.
89 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays, 8 000 rien qu'à Paris, épaulés d'une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie, dispositif de sécurité d'une ampleur inédite en prévision des manifestations demain des Gilets jaunes. Dans le sillage des contestataires, la violence gagne les lycées, plus de 200 établissements perturbés hier, 700 interpellations. Un conflit qui déstabilise le pouvoir, Édouard Philippe était à la télé hier soir. Aucune cacophonie entre l'Élysée et Matignon, assurait le Premier ministre.
Europe 1.
Très grande tension à la veille de nouvelles manifestations des Gilets jaunes. Après les scènes de guérilla urbaine, les violences, les dégradations la semaine dernière, les autorités ont mis en place un dispositif sécuritaire exceptionnel. 89 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est bien sûr dans la capitale que les plus grandes violences sont redoutées. Alain Acco.
Rien qu'à Paris, ils seront plus de 8 000. Presque deux fois plus que samedi dernier. 8 000 répartis sur toute la capitale. Car d'autres sites que les Champs-Élysées pourraient être pris pour cible. Bercy, par exemple. Et le ministère des Finances. Pour la première fois, des blindés de la gendarmerie seront déployés dans Paris. Des blindés à roues, régulièrement utilisés en Nouvelle-Calédonie pour protéger les gendarmes qui se font tirer dessus. Plus récemment aussi à La Réunion ou à Notre-Dame-des-Landes pour dégager les barrages routiers. 12 engins de ce type seront positionnés dans la capitale. Selon nos informations, il y en aura aussi 2 à Marseille, 2 autres à Bordeaux. Illustration de cette mobilisation générale, la gendarmerie a suspendu tous les repos. Rappelez, tous les permissionnaires, 100 escadrons de mobiles sur 109 seront sur le pont, 55 compagnies de CRS sur 60. C'est du jamais vu. À Paris, on a même demandé à la brigade anti-gang de déployer une centaine d'hommes dans les rues. Cela fait 3 ans qu'ils s'entraînent pour des combats urbains contre des commandos terroristes.
Alain Acco, la préfecture demande aux commerçants sur les Champs-Élysées de fermer boutiques à 2 semaines de Noël. Fermeture également de nombreux musées, le Louvre, Grand Palais, Orsay, des salles de spectacle ainsi que de la Tour Eiffel. Le parcours de la Marche pour le Climat a été modifié pour l'éloigner des Champs-Élysées. Elle ira de Nation à République. La montée contestataire dans le sillage des Gilets jaunes, elle gagne depuis quelques jours avec violence les lycées. Rien qu'hier, 700 personnes ont été arrêtées dans toute la France. Près de 300 établissements sur les plus de 4000 que compte le pays ont été perturbés. L'interpellation la plus spectaculaire s'est déroulée à Mantes-la-Jolie, près de Paris. Des dizaines de lycéens agenouillés, mains sur la tête. Une source policière indique que l'interpellation d'un nombre aussi important d'individus a nécessité de prendre des mesures de sécurité complémentaires. Une quarantaine de suspects étaient porteurs de bâtons, battes de baseball et de conteneurs de gaz lacrymogène.
Et à quelques heures de la manifestation, de nombreuses voix de tous bords appellent au calme.
Dont celle d'Édouard Philippe, le Premier ministre mis en première ligne par Emmanuel Macron depuis plusieurs jours. Il était hier soir invité du 20h de TF1 et il a aussi été question de la crise politique qu'entraîne le mouvement des Gilets jaunes. Aurélie Herbemont.
La taxe est annulée, Édouard Philippe le martèle sur le plateau de TF1. Lui qui n'avait pas été aussi clair mercredi pendant le débat à l'Assemblée, obligeant l'entourage d'Emmanuel Macron à mettre les points sur les i. Mais le Premier ministre est formel, il n'y a aucun problème avec l'Élysée.
Il n'y a aucune cacophonie, monsieur Boulot. Cette taxe n'est pas dans le budget 2019. Elle est annulée. Point.
Édouard Philippe qui balaye les interrogations sur son maintien à Matignon.
Ma mission, monsieur Boulot, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Je le fais avec le soutien de la majorité et avec la confiance du président, et c'est ce qui m'importe.
Édouard Philippe est pourtant bel et bien fragilisé par cette crise où il se retrouve en première ligne. Dans la majorité, ceux qui le trouvent trop droit dans ses bottes plaident pour qu'il joue le rôle de fusible. D'autres, au contraire, le défendent. J'espère qu'il restera, car c'est un bon chef de gouvernement, confie un de ses ministres. Un député de la majorité va dans le même sens. Il doit rester. Les Gilets jaunes ne demandent pas sa tête, de toute façon. Mais son avenir, Édouard Philippe le sait, c'est Emmanuel Macron qui en décidera.
Aurélie Herbemont.
Europe 1, il est 5h04.
Dans le reste de l'actualité, Jonathan Daval confronté à sa belle-famille.
Aujourd'hui, à partir de 9h au tribunal de Besançon, l'informaticien principal suspect du meurtre de son épouse Alexia. Il accuse aujourd'hui ses proches d'avoir monté un complot et d'être à l'origine de la mort de la jeune femme il y a maintenant plus d'un an. Il était le symbole des crises politiques sur l'accueil des migrants en Europe. Médecins sans frontières et SOS Méditerranée annoncent la fin des activités de l'Aquarius. Le bateau à quai à Marseille était sans pavillon depuis 2 mois. Et puis lancement aujourd'hui du Téléthon. 36-37, c'est le numéro de téléphone que vous connaissez qui sera perturbé par les Gilets jaunes. Plusieurs événements en extérieur ont été annulés. Le plateau principal ne sera pas place de la Concorde, mais dans des studios de France Télévisions.
On passe, Jérôme, au volet sportif de votre journal. L'heure de déboutonner un peu ce pull. Regardez Céline.
Magnifique. Vous faites du sport ?
Même pas.
Il bouffe des cookies, c'est ça qui est écœurant.
Maison.
En plus. À la une, Jérôme, du journal des sports, des Françaises au top.
Les Bleus du handball ont proposé hier à l'Euro le match le plus abouti depuis le début de leur compétition. À Nantes, elles ont battu les Danoises, candidates au podium à 29-23 pour le premier match de la deuxième phase du tournoi. C'est un nouveau pas vers les demi-finales, jusqu'auxquelles restent 2 rencontres à gagner. La Suède demain, la Serbie mercredi, en tout cas la performance d'hier soir. Selon le sélectionneur Olivier Krumbholz, ça le pousse à l'optimisme. Sans toutefois pavaner.
C'est vrai que l'équipe actuellement est bien équilibrée, on monte en charge, mais on est vigilant aussi. La performance, c'est quelque chose qui peut être fragilisé si à un moment donné on est moins bien. Donc, restons concentrés, continuons à avancer. Et mieux qu'hier et moins bien que demain.
Des propos recueillis par Christophe Lamar. Le handball côté garçon, le championnat de France. Victoire de Montpellier sur Saint-Raphaël. Hier soir, 30-26 en clôture de la 12e journée. Ce matin, Montpellier 3e, Saint-Raphaël 6e.
Le foot et plus de la moitié des matchs de la 17e journée de Ligue 1 sont reportés.
6 sur 10, raison de sécurité. Les forces de l'ordre sont mobilisées sur les manifestations des Gilets jaunes. Trop peu restent disponibles pour assurer la sécurité autour des stades. Sont donc reportés Nîmes-Nantes, Angers-Bordeaux, Saint-Étienne-Marseille, PSG, Montpellier, Monaco, Nice, le derby qui devait se tenir dès ce soir. Et puis aussi Toulouse-Lyon. Lyon dont le président Jean-Michel Aulas plaide pour l'annulation complète de cette 17e journée pour des raisons d'équité sportive, dit-il, mais aussi de sécurité.
À partir du moment où la journée n'est pas globale, on se doit, et pour des raisons d'équité, mais aussi pour des raisons de sécurité collective, permettre en fait à l'ensemble des forces de sécurité de s'occuper de ce qui est dangereux et donc des manifestations qui sont aujourd'hui annoncées.
Jean-Michel Aulas, joint pour Europe 1 par Cyril Delamorinac.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
166, on a cru pendant 166 jours seulement. Camélie Mauresmo serait la patronne des Bleus du tennis l'année prochaine. Depuis juin dernier, elle devait prendre la suite de Yannick Noah, mais non. Hier, on apprenait qu'elle renonçait au capitanat pour entraîner Lucas Pouille en projet personnel, donc plutôt que de prendre part à la décriée compétition qui va remplacer la Coupe Davis.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme qui reviendra tout à l'heure.
Plus fort qu'hier et moins que demain.
Ce qui est con vu que demain c'est samedi.
Europe 1. Il est 5h07, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue.
Il a gardé le son toute la semaine dans le passé.
Celui-là, je vais te le caser un vendredi, ça va être génial. Et
vous me prêtez vraiment des intentions, c'est n'importe quoi. J'ai trouvé ce son hier, il était 16h10, complètement par hasard. Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, oser sortir de sa zone de confort, oser se réinventer. Beaucoup en rêvent, certains le font. Chaque matin à 5h10 dans Fallait oser, Europe 1 donne la parole à un homme ou une femme qui a eu le cran de changer de vie. Hier, en école de commerce, aujourd'hui, Julien est devenu éco-aventurier.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue. L'heure de faire un premier point sur la météo du jour. Avec vous, Céline Dacosta, une journée encore pluvieuse.
Oui, avec cette nouvelle perturbation qui arrive dans la matinée par le nord-ouest. Elle se décalera vers l'est dans la journée avec des averses soutenues et du vent. Les trois quarts du pays seront bien arrosés car les averses seront bien présentes. On aura même quelques coups de tonnerre sur la Normandie dans l'après-midi. Le vent lui soufflera jusqu'à 80 km/h dans les terres, 100 km/h près des côtes de la Manche. Et puis le soleil va résister des Pyrénées aux Alpes comme hier. Il va même remonter sur le flanc est dans l'après-midi. Le tout sous des températures encore douces, avec une moyenne de 10 à 13 degrés sur la moitié nord pour cet après-midi. Il en fera 12 à Paris, 14 à 18 pour la moitié sud.
Merci Céline. Eva, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aviation civile.
Exactement. Donc on a demandé aux auditeurs sur Twitter avec le hashtag Europe 1 de nous dire ce qu'ils aiment le plus quand ils prennent l'avion ou au contraire leur phobie. Et Jean-Sébastien, il dit ce que j'aime, c'est quand la météo n'est pas terrible au sol. Vous savez, ces nuages gris, des grosses pluies, du vent. Et après
on
quelques
traverse,
minutes de vol, on traverse
les nuages.
Pour se retrouver avec un grand soleil dans un ciel bleu immense au-dessus des nuages blancs. Et Saibot nous dit, moi j'ai une phobie, il voyage beaucoup entre Paris et Mexico, c'est passé au-dessus du volcan Popocatépetl. Alors en fait, il dit, c'est pas du tout vrai, j'ai aucune phobie, c'était juste pour entendre Eva prononcer le nom du volcan.
Comme
et c'est un son de plus pour Mathieu.
Il vous a
merci
bien arnaqué.
Beaucoup.
Hein. Dites-le, il s'appelle comment ce volcan?
Popocatépetl.
Très bien, c'est noté. Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, notre mission, vous informer, vous divertir et aussi, quand on le peut, vous inspirer. Combien d'entre vous ont par exemple décidé de changer de vie et de se lancer dans le chant après avoir entendu Céline Dacosta ?
I mean, I wanna shame on you.
Zéro.
J'y
okay
pense,
bon,
j'y
zéro
pense.
Mais chaque matin, dans Fallait oser, on part à la rencontre de quelqu'un qui a réussi son changement de vie. Ce matin, rencontre avec un garçon un peu fou. Après des études en école de commerce, il s'apprêtait à accepter un CDI pour travailler dans un bureau. Il a tout envoyé balader pour endosser une carrière d'éco-aventurier. Ou comment mêler l'exploit sportif et projet écologique. Il vient à peine de terminer son aventure débutée au mois de mai.
Fallait oser.
Alors depuis le mois de mai, j'ai tenté de battre le record du monde du plus long triathlon. Donc je me suis fait une petite balade à vélo de 4550 km, 290 km de nage en solitaire de Marseille à Monaco et Monaco-Paris en courant pour rencontrer 4150 jeunes. L'objectif déjà c'était de les prévenir de la qu'est-ce qui se passe sur la planète, leur montrer que les indicateurs sont bien dans le rouge sans être trop alarmiste, mais quand même leur expliquer par exemple qu'on est rentré dans la sixième extinction d'espèces et que toutes les 20 minutes, une espèce disparaît, leur expliquer que c'est pas normal, qu'ils peuvent être acteurs de ce changement et que ça peut commencer tout de suite dans leur établissement scolaire ou dans leur famille.
Et ça marche avec des enfants. Julien a réussi à faire passer un amendement destiné à interdire les bouteilles d'eau en plastique dans les cantines.
Ah oui, ça sera en 2020 effectif. Julien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain projet est déjà prêt.
Défendre une proposition de loi pour les écoles écologiques et non pas seulement un amendement, mais faire une vraie proposition de loi. Mais ça, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Donc c'est pour ça que je fais un appel aujourd'hui sur Europe 1. Je vais avoir besoin de citoyens qui vont venir m'aider dans cette quête de créer une proposition de loi sur les écoles écologiques pour rentrer en contact avec leurs députés, leurs sénateurs, pour aller à leur rencontre, leur expliquer ce que l'on cherche à faire. Comme ça, on va peut-être influencer leur vote demain à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et ça, c'est du lobbying citoyen pour l'intérêt commun. On va contre-attaquer les lobbyistes qui défendent les intérêts privés, qui pourrissent la planète. Et donc voilà, il faut que chacun s'engage.
Pour tout savoir sur ce projet d'école écologique et rejoindre le combat de Julien, c'est sur son site que ça se passe, julienmoreau.org.
Oui, un projet citoyen dont vous pouvez être les acteurs. Et si vous aussi, vous avez osé un jour entreprendre un défi fou ou changer de vie, vous nous écrivez par mail ou sur Twitter.
Moi, j'ai bossé
avec le hashtag Europe 1.
C'est déjà pas mal comme changement de vie.
C'est un méga défi.
Europe 1.
Il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui chérit autant la plume d'Albert Londres que celle de Zizi Jeanmaire.
Notre école.
À suivre, des idées cadeaux pour les fêtes qui approchent, des conseils pour savoir repérer et déjouer les fake news sur Internet, ça sera vendredi les bons tuyaux. Et puis, si vous nous écoutez à 5h12, c'est peut-être que vous en souffrez, l'insomnie concerne des millions de Français. Vous passez la nuit à tourner dans votre lit, ensuite pendant la journée, vous êtes aussi vif que Céline Dacosta sans Berroca Boost.
Oh là 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 là.
Comme le vendredi, vous le savez, c'est notre page bibliothérapie, le docteur Ichou a lu pour nous le numéro spécial que le magazine 60 millions de consommateurs consacre ce mois-ci au sommeil. Il a déjà donné 2-3 trucs à Eva et visiblement, eh ben ça marche. Mais d'abord, je joue décidément avec vos nerfs, chers auditeurs, car après vous avoir parlé de sommeil, je vous propose à présent d'écouter ACDC, Highway to Hell. Je suis vraiment un sacré loustique. Highway to Hell, ACDC sur Europe 1, la chanson idéale pour calmer les esprits avant les nouvelles manifs prévues demain. Merci qui ? Merci ?
Europe 1. Ah, il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
89 000 policiers et gendarmes déployés demain dans toute la France. Dispositif de sécurité exceptionnel en prévision des manifestations des Gilets jaunes. À Paris, 8 000 forces de l'ordre ainsi qu'une douzaine de véhicules blindés sont prévus. La préfecture appelle par ailleurs les commerçants des Champs-Élysées à fermer boutique demain. De nombreux musées, salles de spectacle ainsi que la Tour Eiffel seront fermées. La Ligue 1 de foot également perturbée. 6 rencontres reportées pour raisons de sécurité, dont Monaco-Nice qui devait se tenir ce soir. Enfin, la colère gagne les lycées. 700 interpellations hier dans toute la France après des confrontations parfois violentes avec les forces de l'ordre.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 7 décembre, l'heure de faire un point sur les pronostics hippiques du jour. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous dirais de miser sur le 7, Kiki le Sauvageon, et d'éviter le 9, Baronne de la Cressonnière. Mais comme je dis n'importe quoi en inventant des noms de chevaux, ça ne vous serait d'aucune utilité. Mieux vaut donc faire confiance à un expert. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses ce soir à Vincennes et mon pari gagnant sera le 206 Dorado Bello. Transparent l'hiver dernier où il ne mettait pas un pied devant l'autre, c'est un tout autre cheval que l'on vient de voir à Vincennes pour sa première tentative du meeting où il s'est imposé de loin sans aucune émotion. Visiblement au mieux et n'ayant certainement pas les gains en rapport avec ses moyens, le style de sa dernière victoire me laisse à penser qu'il devrait pouvoir ici doubler la mise. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 6, Dorado Bello.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et se profile maintenant le moment le plus authentique de toute cette matinale. Ce moment de convivialité potache où tous les membres de la colloque DLC vont se retrouver autour de la table du petit déjeuner. Pour l'instant, dans sa chambre, sous un poster figurant l'inspecteur Navarro tapant dans la main de Blomet sous l'œil complice de Bain-Marie, ses idoles, Céline Dacosta se fait les ongles en chantant
« Lâche pas ta bonnette,
lâche pas ta bonnette ».
Intrigué, disons-le, émoustillé par ce chant mélodieux, Jérôme Lacroix s'approche à pas de loup de la chambre de sa dulcinée. Il frappe à la porte, puis, comme le dicte leur code secret, il frappe 17 fois tout doucement en prononçant le mot de passe
« Indoor ».
Céline lui répond
« Indoor ».
Jérôme pénètre alors dans la chambre. Comme à chaque fois, démarre alors cette joute à l'issue indécise entre la raison et la passion. Qui aura le dessus ? Finalement, ce matin, c'est la sagesse qui l'emporte et Céline s'exclame.
Non, mais il y a des moments où il faut tirer, puis d'autres où il faut pas.
Et là, clairement, il faut pas, hein, puisque c'est l'heure du pressing, c'est mieux. La crise des gilets jaunes et la violence s'invitent en une de vos journaux. Il faut bien rire avec ce climat anxiogène, les amis. On se détend un peu. Un samedi à très haut risque, titre Le Parisien, enquête sur une dérive violente pour Le Figaro. Panique au sommet pour l'UMA, l'engrenage pour l'IB. Et vous, mes agneaux, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin ? On commence par vous, Eva.
Compliqué hein, de trouver des articles un peu réjouissants, enfin en tout cas qui vous apprennent autre chose que ce qu'on sait déjà sur les gilets jaunes. Alors connaissez-vous Marcus Wheeling ?
Non, pas du tout.
Il a 25 ans et en Estonie c'est une star, alors pas de la chanson, mais des VTC. Le jeune homme est à la tête de Taxify, qui est un opérateur de VTC créé en 2013. Et son ambition, c'est doubler Uber en Europe. Les échos du week-end tracent le portrait ce matin de celui qui est déjà leader sur le continent africain.
Mais c'est quoi la différence avec
Uber ? Je vais vous expliquer. Taxify est présent dans 28 pays, il compte 15 millions d'utilisateurs. Ce bébé milliardaire, écrit Pierre de Gasquet, est devenu la coqueluche du petit pays balte, fier de son rang de nation la plus numérisée au monde. Alors ce garçon a commencé par créer des sites web pour des entreprises. Il a participé à des hackathons, vous savez, ce sont ces espèces de marathons où on est en 48 heures ou 72 heures, il faut créer des petits programmes. Et puis il a persuadé ses parents de lui prêter de l'argent pour fonder Taxify. 4 ans plus tard, un géant chinois entre au capital.
J'espère que ses parents n'ont pas juste prêté l'argent qu'ils ont investi en fait dedans pour eux.
Je suis pas sûre parce que c'est pas précisé dans l'article, figurez-vous, et que je me suis posé la question. J'espère qu'ils ont bien investi. Parce que 4 ans plus tard, donc comme je vous le disais, un géant chinois entre au capital et mai 2018, l'entreprise lève 175 millions de dollars sur la base d'une valorisation de 1 milliard de dollars. Taxify, c'est aussi une histoire de famille parce que Marcus travaille avec son frère Martin. Le premier se concentre sur l'expansion internationale et la recherche d'investisseurs pendant que le second s'occupe des relations avec les gouvernements et les questions réglementaires. Alors, quelle est la différence avec Uber?
Oui.
Eh bien, des prix plus compétitifs, environ 10% moins
cher. Oui, mais les chauffeurs, ils sont payés comment?
Eh bien, justement, et une approche plus feel good, en tout cas plus éthique à l'égard des chauffeurs. Taxify, par exemple, prélève sur les courses une commission de 15% contre 25% pour Uber.
D'accord.
Ils ont même ouvert une propre station, leur propre station-service pour proposer aux chauffeurs du carburant à un tarif préférentiel.
Ah oui.
Voilà, ils ont une approche un peu plus humaine, en tout cas, de leur relation avec les chauffeurs. Et Taxify est présent en France. Ils sont déjà à Paris et à Lyon pour l'instant. 500 000 Parisiens sont déjà clients. Ce n'est que le début. Taxify a également lancé son parc de trottinettes électriques, Bolt, en libre-service. Vous pouvez les voir dans la capitale. Et au fait, Marcus Willing dit en souriant « Je ne suis pas un inconditionnel de l'automobile. Je n'ai même pas mon permis.
»
Voilà, un jeune homme dont on va, à mon avis, continuer à parler. Il s'appelle Marcus Willing. Et il a 25 ans, à peine 25
ah ouais.
ans.
Ah oui, ça nous calme.
À lire dans le magazine des Échos, vous savez, le magazine Week-end.
Tout
fait.
À fait. Merci beaucoup Eva Roque. Céline, qu'avez-vous déniché dans la presse pour nous ce matin?
Un article trouvé dans Le Parisien où on apprend qu'à partir de janvier, les portes de la première académie d'e-sport va ouvrir à Marseille.
Ah. Voilà. C'est pour Mathieu ça.
Exactement. Elle s'appellera Mon Club e-sport et à sa tête, on retrouve un jeune retraité, enfin c'est le parrain de ce club, un jeune retraité des bassins, le champion de natation Yannick Agnel, lui-même passionné de jeux vidéo. Alors le principe est simple, préparer des gamers comme des sportifs de haut niveau sur des jeux tels que League of Legends. Alors moi j'en connais qu'un, c'est FIFA 19 ou encore Fortnite. Je sais que c'est très très
Fortnite,
à la mode Fortnite.
C'est très à la mode.
Je ne sais même pas ce que c'est moi. Alors il y aura dans ce club où on a déjà des terrains de badminton ou de foot à 5, une salle équipée de 24 ordinateurs avec des joueurs plus ou moins confirmés, mais aussi une équipe professionnelle qui est en cours de constitution sur le jeu préféré justement des ados Fortnite. On va les former sur le jeu, mais il y aura surtout toute une partie physique avec une demi-heure d'exercice toutes les deux heures. Alors la partie physique, elle est évidemment dirigée par le double champion olympique de natation Yannick Agnel et l'ancien international de foot ivoirien Guy Demel. Et ça marche, nous dit Richard Tran, qui a 18 ans et qui est l'une des premières recrues de l'équipe pro. On se sent mieux dans notre corps, plus en forme et plus réactif sur le jeu. Le sport leur apprend aussi à gérer leurs émotions, dit Laura Desjou, une ancienne championne d'e-sport qui est maintenant coach et qui sera coach dans ce club d'e-sport. Loïc Maurer, qui est l'un des trois fondateurs de l'académie, prévoit l'ouverture d'une dizaine de franchises d'ici 2020. Quand on sait que le marché de l'e-sport représente environ 30 millions d'euros en France, on se dit que c'est sûr, ça va marcher. En Asie, en Amérique du Nord, on a déjà des stades dédiés à l'e-sport avec des joueurs qui sont de véritables stars suivis par des dizaines de millions de personnes, c'est-à-dire aujourd'hui dans Le Parisien.
Ils font Bercy plusieurs fois dans l'année, tout est plein
et
à chaque fois.
Je crois qu'ils ont des gros salaires en plus les joueurs.
Dans les équipes professionnelles, ils ont des gros salaires.
Il y a un Français qui est très bon sur FIFA, c'est Bruce Granek qui est champion du monde.
Je le connais, je l'ai défoncé.
Et ses revenus sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an.
Le fait d'introduire du sport dans ces séances de gaming qui peuvent durer des heures devant un écran, c'est quand même une très très bonne chose.
Et quand ils remplissent des salles, c'est drôle parce que le public est là et encourage comme s'ils assistaient à un vrai match sur le foot notamment.
J'aimerais bien vivre ça.
Ils sont tous
Et moi j'aime bien la partie psychologie pour nous aider à garder nos nerfs parce que hier moi j'ai cassé une manette. J'ai cassé une manette parce que vous savez pourquoi Céline?
Non.
Parce que je fais, vous le savez, une très très belle, enfin plusieurs belles saisons dans FIFA, en mode carrière effectivement. Et là, à l'issue de ma troisième saison et de ma troisième Ligue des Champions, gagnée, j'ai été sélectionné pour sélectionner l'équipe de France. On m'a proposé d'entraîner l'équipe de France. J'ai mis oui, j'ai signé le contrat, seulement j'ai pas sauvegardé. Et la partie d'après, ils avaient oublié et c'était le Costa Rica qui me proposait de devenir entraîneur. Alors j'étais dégoûté et j'ai fracassé la manette.
On vous appellera pas Mathieu Deschamps. Là.
Non, c'est foutu pour moi.
Mais Yannick Agnel dit que le yoga c'est très bien justement.
Il faudrait qu'il m'y mette peut-être.
Pour tout le monde, ça serait bien que vous mettiez au yoga.
Pour mes proches collaborateurs surtout. Jérôme Lacroix, qu'avez-vous choisi dans la presse pour nous?
36, 37, le numéro du Téléthon.
Et non pas le 39-21 comme l'avait dit Eva, qui est le numéro d'Europe 1.
On vous en parle du Téléthon ce matin sur Europe 1 et dans le journal Aujourd'hui en France aussi, avec le témoignage, l'histoire de Mélissa, 24 ans. Bah,
Mélissa métisse débit, sa vie toujours dévêtue.
C'est pas elle a 24 ans.
Que je vous ai dit ça,
ou Mélissa me tue.
C'était un petit cadeau que j'avais envie de vous offrir comme ça.
On aime toujours ça, c'est le cœur de Debout les copains. 24 ans, Mélissa, et depuis la naissance, elle souffre de cette maladie extrêmement rare. Alors comme souvent, ces maladies-là au nom peu gracieux, le syndrome de Crigler-Najjar. Alors voilà, qui rend C'est ce que raconte le Aujourd'hui en France, qui rend le teint et même les yeux jaunes, mais aussi qui fatigue énormément. C'est le foie de Mélissa qui ne remplit pas ici l'une de ses fonctions. Alors, mais depuis quelques jours, là c'est l'espoir. La jeune Nantaise est la première patiente au monde à tester un médicament qui peut la guérir. On vient de lui injecter le gène sain qui va peut-être réparer son foie malade. Et ça, c'est un essai clinique du laboratoire Généthon, financé en très grande majorité par le Téléthon, par les dons au Téléthon. Alors Mélissa, elle espère dire adieu à une partie de son quotidien, celui bien sûr lié à la maladie. Des nuits de 12 heures minimum, parce que donc ça la fatigue énormément, sans pyjama ni drap, sous de gros appareils qui diffusent une lumière bleue, raconte Aujourd'hui en France. C'est une photothérapie et elle est vitale puisque cette lumière bleue, elle élimine une partie de la substance devenue toxique que son foie n'élimine pas. C'est grâce à ces lumières que je vis, dit une Mélissa qui, enfant par exemple, n'a jamais pu aller du coup dormir chez une copine. C'est très contraignant, l'équipement, ou qui n'est partie que deux fois en vacances dans sa vie. Et en plus, une fois, une compagnie aérienne l'avait obligée à placer ses précieuses lampes en soute dans l'avion et elle les avait récupérées cassées. Elle a dû procéder à une réparation en urgence. Imaginez le mauvais souvenir. Ce qui a sauvé Mélissa, c'est qu'elle a accepté très vite sa maladie. Aujourd'hui, elle a un métier, elle est assistante maternelle, une petite fille de 4 ans et demi. Elle a déjà prévu, si le médicament fonctionne, bien sûr, de partir en vacances. Ce sera son premier truc. Et elle embrassera très fort aussi Ada, sa mère, une femme qui, il y a 29 ans, a perdu déjà une première fille de cette même maladie.
On l'embrasse fort.
36, 37, c'est extrêmement important.
Et c'est bien d'avoir des cas concrets comme ça, ça incite à donner, on comprend où va l'argent et à quoi ça sert. Merci beaucoup Jérôme. Le Pressing, notre revue de presse en mode zapping, referme ses portes. Pour les week-ends, on pourra peut-être un peu d'huile de coude.
Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
Moi, je sais pas bricoler. Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zelani à suivre. Vivifiant réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, faisons un point sur la météo de sa décembre, une journée encore malheureusement pluvieuse.
Oui, encore beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays, bien couvert sur la moitié nord avec une nouvelle perturbation qui arrivera en fin de matinée par le nord-ouest et apportera des averses soutenues et du vent. 60 km à l'heure ce matin dans les terres, 90 près des côtes. On aura un ciel nuageux avec encore quelques timides éclaircies entre l'Aquitaine, la région centre, la Franche-Comté. Puis le soleil, lui, va briller encore largement des Pyrénées aux Alpes. Côté thermomètre, 5 degrés en ce moment à Tarbes, 8 à Ajaccio, 10 degrés à Lyon, 11 à Biarritz, Lille et Toulouse, 12 à Bordeaux, Brest et Strasbourg et 13 à Caen.
Et cet après-midi, Céline ?
Les averses soutenues vont se décaler vers l'est, vers le sud également. Ils gagneront toutes les régions entre les Pays de la Loire et la Normandie. En fin de journée, entre le Poitou-Charentes et la Champagne-Ardenne, et puis en passant par l'Île-de-France. Et puis un peu plus tard, ça sera entre la Aquitaine et le Grand Est. On aura des averses orageuses en Normandie. Le vent va s'intensifier. 100 km à l'heure sur les côtes, 80 km à l'heure dans les terres. Le soleil résistera toujours sur l'extrême sud. Quant aux températures, elles restent douces. 10 à 13 degrés pour la moitié nord, 14 à 18 pour la moitié sud.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour prendre l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux. À suivre, c'est même plus une rubrique radio, c'est Broadway. Les meilleurs éléments du service culture d'Europe 1, y compris son vice-chef adjoint délégué par intérim, sont mobilisés pour enchanter votre week-end. Quelle BD offrir à Noël pour être sûr de faire plaisir? Quel humoriste suivre sur YouTube pour, comme disent les jeunes, s'en payer une bonne tranche? Enfin, comment détecter et déjouer les fake news sur Internet? Nos experts vous disent tout. Et puis, souvent je le dis à Eva. Dormir près de toi, ça serait génial. Mais dormir tout court, ce serait déjà bien. Beaucoup de Français,
c'est sûr.
Beaucoup de Français souffrent de troubles du sommeil. Comment retrouver des nuits sereines? Le docteur Ichou a lu pour nous le numéro spécial sommeil de 60 millions de consommateurs. Il nous livrera les solutions les plus intéressantes qu'il y a trouvées.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller. Il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce vendredi 7 décembre 2018. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Emmanuel Macron prendra la parole en début de semaine prochaine. L'exécutif s'attend à un samedi noir demain et va déployer un impressionnant dispositif de sécurité. Le mouvement des Gilets jaunes toujours soutenu par les Français, mais certains sont exaspérés par le déchaînement de violence qui accompagne les manifestations. L'actualité, c'est aussi le lancement du Téléthon aujourd'hui. Exemple d'une thérapie génique qui a permis de venir à bout d'une maladie rare.
Europe 1.
Et d'abord l'information de la nuit, Emmanuel Macron va donc s'exprimer en début de semaine prochaine sur la crise des Gilets jaunes, annonce du président de l'Assemblée Richard Ferrand. Le président, lucide sur le contexte et la situation, dit-il, ne souhaite pas mettre d'huile sur le feu. À samedi exceptionnel, dispositif exceptionnel, Édouard Philippe, qui était hier soir l'invité du 20h de TF1, a annoncé la mobilisation de 89 000 membres des forces de l'ordre, dont 8 000 à Paris, la capitale, où ils seront soutenus par une douzaine de blindés de la gendarmerie, c'est du jamais vu depuis les émeutes de 2005. La perspective d'un nouveau samedi de violence inquiète en tout cas de nombreux Français, y compris des soutiens des Gilets jaunes, à la fois effrayés et révoltés par les exactions de certains. Reportage à Nantes, François Coulon.
Il arpente le marché de Noël de la place du commerce avec gravité. Bernard, retraité, redoute un nouveau déferlement de violence demain à Paris.
Ça me révolte. Il y a d'autres moyens d'expression. Je suis inquiet parce qu'on sait très bien comment ça se termine, ce genre de choses. Vous aurez après un retour en force de l'ordre, de la répression, éventuellement des mouvements d'extrême droite.
Michael est fonctionnaire. Il est horrifié par le message de l'Élysée évoquant la venue d'activistes susceptibles de tuer.
Ça me fait peur de voir qu'on peut supprimer la vie de quelqu'un gratuitement parce qu'on a des idées différentes. C'est atroce quand même. Vraiment, ça me touche et ça me navre pour l'espace humain, puis pour l'image qu'on donne à nos enfants.
Depuis deux semaines, Xavier, chef d'entreprise, est consterné par la dérive violente d'un mouvement aux aspirations respectables.
Comment est-ce qu'on peut permettre ça? C'est un aspirateur à conneries ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui manifestent pour des raisons valables. Par contre, ils sont débordés par ce qui se passe autour. L'objectif, il est de rentrer dans l'Élysée. Ça fait peur. La justification de tout ça, elle est où là-dedans? Il n'y en a pas. J'ai mon fils qui a 16 ans. Ce matin, j'ai appris qu'il manifestait. J'ai 50 balais. C'est une grosse tristesse.
Bernard a connu mai 68, mais là, avec Internet, dit-il, ça me paraît beaucoup plus inquiétant. Nantes, François Coulon, Europe.
Et à noter que des députés PS, LR ainsi que le groupe communiste lancent un appel au calme, ainsi que les sept principaux syndicats qui dénoncent toute forme de violence dans l'expression de revendication des Gilets jaunes.
Violence aussi du côté des manifestations lycéennes. Quelques 280 lycées et collèges ont de nouveau été perturbés hier.
Donc 45 bloqués, plus de 700 jeunes arrêtés, 153 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. D'ailleurs, une vidéo est très partagée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. On y voit plusieurs dizaines de lycéens à genoux, mains sur la tête. La police précise qu'une quarantaine avait sur eux des bâtons, des battes de baseball et autres conteneurs de gaz lacrymogène. Les syndicats lycéens, qui réclament notamment l'abandon des réformes du bac, appellent à maintenir la pression et à intensifier le mouvement par une mobilisation générale.
Europe 1, il est 5h33.
Nouvelle journée importante dans l'affaire Jonathan Daval.
Oui, aujourd'hui, le suspect numéro 1 dans le meurtre d'Alexia Daval sera successivement confronté aux quatre membres de sa belle famille dans le bureau du juge à Besançon. Des échanges qui pourraient apporter des réponses sur les zones d'ombre de ce dossier. Décision extrêmement difficile à prendre, regrette Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée. Les deux ONG arrêtent les opérations de sauvetage de leur navire humanitaire, l'Aquarius. Il est privé de pavillon depuis deux mois.
Vaincre la maladie, c'est enfin possible. C'est le message du 32e Téléthon qui débute aujourd'hui.
Mobilisation pendant trois jours pour récolter de l'argent en faveur de la recherche sur les maladies rares. 3 millions de personnes en France sont concernées. Dans 80% des cas, ces pathologies sont d'origine génétique. L'argent du Téléthon finance de nombreux essais de thérapie génique très coûteux. Et enfin, sa paix, victoire face à l'une des maladies du sang les plus fréquentes, la bêta-thalassémie, incurable jusqu'ici, Mélanie Gomez.
Dans cette maladie, le problème, c'est un défaut sur un gène indispensable pour produire nos globules rouges. Résultat, les patients sont toujours en anémie et pour survivre, il leur faut des transfusions tous les mois. Grâce à la thérapie génique, des chercheurs ont donc réussi à créer un gène médicament qu'il faut d'abord insérer dans les propres cellules souches prélevées sur les malades, précise le professeur Philippe Le Boulch du CEA.
Et donc le gène rentre dans les chromosomes et reste là de manière permanente, donc c'est un traitement à vie. Et lorsque c'est fait, on réinjecte les cellules souches modifiées en intraveineux. Les cellules modifiées migrent spontanément dans la moelle et du sang commence à être fabriqué à partir d'elles, dont des globules rouges pour la première fois.
Et donc, grâce à une seule injection, 12 patients sont aujourd'hui en rémission totale. Plus besoin de transfusion. C'est le cas de Chanticha, 21 ans. Avant ce traitement, elle vivait un enfer.
On n'a plus de force. Des fois, même monter l'escalier, on ne pouvait pas. Mais maintenant, depuis 3 ans, j'ai oublié tout ça. Je peux dire que je suis une personne normale. C'est comme si on a une nouvelle vie.
Alors les essais cliniques étant quasiment terminés, la suite maintenant c'est de pouvoir proposer ce traitement à tous les malades qui en ont besoin. En octobre dernier, une demande d'autorisation de mise sur le marché européen a été déposée.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, et rappelons que pour faire un don, vous pouvez aller sur le site téléthon.fr ou composer le 36 37. Et puis la mort de Joseph Joffaut à 87 ans, célèbre romancier. Il a marqué plusieurs générations avec son livre autobiographique Un sac de billes, adapté deux fois au cinéma, dans lequel il racontait comment à 10 ans il avait
avait fui les nazis avec son frère. Le livre s'est vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde.
Merci beaucoup Hélène, c'était le journal d'Hélène Zelani. Et regardez madame qui revient, pour le plus grand plaisir de vos yeux. Le monsieur muscle d'Europe 1, qui choisit hélas de cacher le dessin parfait de ses pectoraux de triathlète sous un gros pull aux grandes dames d'Eva et Céline.
Non, non, mais il faut qu'il enlève quoi, ça
sert à rien là en plus.
Mais oui, mettez vous à l'aise GG, vous serez mieux pour le sport. À la une du JDS aujourd'hui. Martin, le franc-tireur.
Martin Fourcade, le français, seul dans la galaxie, biathlon depuis 7 ans. Il y gagne tout en quête d'un 8e sacre. Il a on ne peut mieux démarré hier la saison de Coupe du Monde. Victoire en Slovénie pour la première épreuve individuelle cette année. C'était l'épreuve du 20 km, alors 20 km de ski de fond, plus 4 séances de tir à la carabine. Et justement, c'est grâce à un 100% au tir que Fourcade s'est une nouvelle fois imposé, Cyril de la Morinerie.
La pause estivale n'a rien changé. Le roi du biathlon est toujours au sommet de son art. Ni le brouillard, ni ses adversaires n'ont fait vaciller le Catalan hier en Slovénie. Moins rapide à ski certes avec le 12e temps, mais incroyable de précision, carabine à la main. Avec un 20 sur 20 devant la cible, Martin Fourcade pouvait s'envoler vers la victoire, la 75e de sa carrière. Le voilà dès le début de la saison en tête du classement de la Coupe du Monde, compétition qu'il a remportée à 7 reprises déjà. Et la razzia n'est sans doute pas terminée. Le Catalan de 30 ans va aborder plein de confiance les deux courses suivantes en Slovénie, le sprint aujourd'hui et surtout la poursuite dimanche, discipline dont il est le champion olympique en titre.
Cyril de la Morinerie, plus de la moitié des matchs de la 17e journée du championnat de France de foot reportés, 6 rencontres sur 10, dont Nîmes-Nantes, Saint-Etienne-Marseille et Monaco-Nice, ce dernier qui était prévu dès ce soir. La sécurité autour des stades ne peut être assurée, les forces de l'ordre sont mobilisées sur les manifestations des Gilets jaunes.
Le handball et les Françaises sur la bonne voie.
Sur la voie du dernier carré de l'Euro en France, hier soir à Nantes, les Bleus ont obtenu une victoire probante sur les Danoises, 29-23. C'était le premier match de la deuxième phase de la compétition. Reste 2 rencontres à gagner tout de même pour une demi-finale. La Suède demain et la Serbie mercredi.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Oui, j'ai choisi Amélie Mauresmo, l'ancienne numéro 1 du tennis mondial, ne sera pas la prochaine capitaine des Bleus. Elle préfère s'investir auprès de Lucas Pouille. Le joueur sort d'une saison noire. Elle sera son coach. Il y a aussi cette nouvelle compétition remplaçante de la Coupe Davis qui, comme à beaucoup en France, ne semble pas plaire à Amélie Mauresmo. Patrice Agelauer, ancien entraîneur de Yannick Noah, comprend l'ancienne championne.
Ça ne me surprend pas, le challenge d'entraîner un joueur comme Lucas, qui est un gars qui a vraiment un potentiel formidable, qui a vraiment, vraiment besoin d'avoir justement à côté de lui quelqu'un comme Amélie, qui connaît le très haut niveau en tant qu'entraîneur. Elle s'est occupée d'Andy Murray pendant quelques années, au moment où il était quand même au numéro 1 mondial.
Patrice Agelauer, joint pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie.
Et oui, mais c'était un très très beau journal de Jérôme Lacroix. Merci beaucoup Céline pour Jérôme, hip hip hip.
Wouchou.
Ça doit vouloir dire oura en portugais probablement.
Wouchou.
Je sais pas.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui slalome entre l'info et le rire avec le même enthousiasme que Christian Clavier au Critérium des médecins.
Wouchou.
Ah bah non, là, c'est pas Wouchou. Il était très très, très drôle ce son Wouchou, je le signale à la régie. Néanmoins, là, c'était pas le son Wouchou, c'était le son Christian Clavier qui était content.
Moi, j'ai eu une pêche, les gars. Wouh.
Mais voilà, on y arrive. Et tout ça est d'une fluidité incroyable. À suivre, une autre brochette de champions. Les experts du service culture d'Europe 1 vous filent leur bon tuyau pour savoir quel cadeau offrir à Noël. Et également aujourd'hui, comment détecter une fake news sur Internet. Et puis, ce sera notre page santé. Nous sommes des millions à mal dormir. Parfois, c'est lié à un problème de cloison trop fine dans un refuge de montagne.
C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. Assez.
Mais parfois, le problème est en nous. Comment guérir de l'insomnie? Le docteur Ichou nous dit tout.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, quel temps pour la France aujourd'hui?
Eh bien, on aura de...
un temps pluvieux.
Exactement.
Avec de bonnes grosses averses.
Oui, cette perturbation arrive dans la matinée sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Cotentin, et puis elle va se décaler vers l'Est et le Sud, car en début de soirée, on la retrouvera de l'Aquitaine au Grand Est. Les averses seront soutenues, accompagnées d'un vent fort dans les terres comme sur les côtes. 80 km/h quand même attendu cet après-midi dans les terres, 100 km/h sur les côtes, notamment les côtes de la Manche. Le soleil lui va résister des Pyrénées à la région Rhône-Alpes ce matin. De larges éclaircies gagneront même le flanc est dans l'après-midi, remonteront jusqu'au sud de l'Alsace. Quant aux températures, elles seront toujours douces. Je vous rappelle qu'elles baissent dès ce week-end le matin et seront bien froides dès lundi puisqu'on passera sous la barre des 10 degrés dans l'après-midi.
Merci Céline. Eva, vous avez posé une question rituelle à nos auditeurs.
C'est la journée de l'aviation civile. On leur a demandé ce qu'ils aimaient le plus quand ils prenaient l'avion ou au contraire leur phobie. Et bien sur Twitter avec le hashtag d'Europe 1. On a reçu deux messages exactement au même moment. Alors Ariane, elle nous dit « J'ai toujours peur de prendre l'avion, mais mon moment préféré que je trouve magique, c'est quand tous les passagers applaudissent à l'atterrissage. » Et à ce moment-là, il y a Caranoia qui, elle, nous dit « Ce que je préfère quand je prends l'avion, c'est la sensation au décollage. Et ce que je déteste, ce sont les applaudissements à l'atterrissage. »
Et il y a aussi les oreilles si qui sont bouchées quand on descend.
Ah, ça, c'est quand vous n'aimez pas, ça. C'est un truc que vous n'aimez pas.
Ça, j'aime pas.
Mais il faut mâcher un chewing-gum.
Oui, c'est vrai. Chacun son astuce. Vous baillez très fort.
Oui. Continuez à nous envoyer vos messages. J'en ai un pour vous, Mathieu, mais je vous le réserve pour tout à l'heure.
Non, pas tout de suite, ça me fait peur déjà.
Non.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le moment où chaque vendredi, je vous dis un suppo et on lit. C'est vendredi, c'est donc bibliothérapie avec le docteur Marcel Ichoux. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Marcel qui a lu pour nous un ouvrage qui nous éclaire sur la santé, le bien-être. Et vous êtes venu ce matin avec un magazine, c'est le dernier hors-série de 60 millions de consommateurs de décembre-janvier consacré au sommeil. L'insomnie est une pathologie extrêmement fréquente. Est-ce qu'il y a des solutions, docteur ?
Alors, il y a des solutions, mais très honnêtement, elles sont compliquées malgré tout ce qu'on peut vous dire. Le sommeil est lié à une horloge biologique par l'alternance du jour et de la nuit. La lumière fait provoquer de la cortisone. Et vous savez, la cortisone, quand on prend un traitement, on la prend toujours le matin parce que ça excite. Et la nuit, l'obscurité fait sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. Vous savez, cette fameuse mélatonine qui, elle, provoque l'endormissement. Mais c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Et donc, il faut pouvoir agir sur la cause, essayer de la retrouver et débroussailler ça, mais dans un contexte qui est celui, vous savez bien, quand on dort mal, et vous êtes bien placé pour le savoir, les causes sont vraiment multiples. L'interaction avec ce que vous pensez, les événements que vous avez vécu est tellement fine qu'il est compliqué de trouver le médicament qui va marcher.
Et alors, quel est l'arsenal dont on dispose quand même ?
Et énormément de choses. Les anxiolytiques.
On peut tout essayer.
Non, on ne peut pas tout essayer. Il faut essayer de débroussailler la chose. Mais je voulais juste mettre l'accent sur un phénomène qui est la mélatonine. Tout le monde veut vous fourguer de la mélatonine. La mélatonine, au long terme, à petite dose, ça peut valoir le coup. Là, c'est quasiment de la phytothérapie. À grande dose, ça peut être toxique, voire très dangereux.
D'accord, donc on évite absolument.
Ne prenons pas, d'une manière générale, les médicaments comme des bonbons et la mélatonine encore plus que les autres.
Méditation, relaxation, c'est très bien.
Relaxation, hypnose, tout ça, ça peut vous aider.
Et pourquoi pas d'un mot, je viens d'avoir l'idée, luminothérapie, puisque c'est lié à la lumière. Si jamais on...
Ah mais c'est pour vous réveiller, la luminothérapie, pas pour vous endormir.
Ok, d'accord. Alors la prochaine fois, je me tairai. Merci beaucoup, Marcel, pour cette lecture du hors-série de 60 millions de consommateurs de décembre-janvier consacré au sommeil, actuellement en kiosque.
Europe 1,
il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, vos deux heures d'infos supplément bonne humeur. Une bonne humeur décuplée aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir que...
Aujourd'hui, c'est vendredi. On va lancer toute la nuit.
À suivre, justement, vendredi, les bons tuyaux, la séquence culture qui vous guide pour ne pas vous planter dans vos achats de Noël. Aujourd'hui, vous saurez notamment quelle bande dessinée glisser sous le sapin. Notre expert high-tech vous apprendra aussi à déjouer les fake news qui pullulent sur Internet, comme celle qui voudrait qu'Eva Rock, de son vrai nom Eva Rokachenko, soit une agent du FSB téléguidée par Moscou pour torpiller Europe 1.
Le marxisme soigne toutes les maladies.
Je refuse à y croire. Pour l'heure, je vous propose une interlude musicale avec une nouvelle chanson dans notre playlist, car Eva commençait à en avoir marre d'Imagine Dragons, comme elle nous l'avait clairement notifié la dernière fois. Imagine Dragons, natural sur Europe 1.
Encore ? Oh, putain !
Bon, voici donc Eva pour vous, Lady Gaga et Bradley Cooper, Shallow sur Europe 1. Shallow, Lady Gaga et Bradley Cooper, un choix validé par Mathieu Charrier, le chef, vice-chef, on ne sait plus, du service culture d'Europe 1, et c'est pas rien.
Il est 5h47. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
89 000 policiers et gendarmes déployés demain dans toute la France. Dispositif de sécurité exceptionnel en prévision des manifestations des Gilets jaunes. À Paris, 8 000 forces de l'ordre ainsi qu'une douzaine de véhicules blindés sont prévus. La préfecture appelle d'ailleurs les commerçants des Champs-Élysées à fermer boutique demain. De nombreux musées, salles de spectacle ainsi que la Tour Eiffel seront fermées. Jonathan Daval, confronté à sa belle famille aujourd'hui à partir de 9h au tribunal de Besançon, l'informaticien, principal suspect du meurtre de son épouse Alexia, accuse aujourd'hui ses proches d'avoir monté un complot et d'être à l'origine de la mort de la jeune femme il y a maintenant plus d'un an. Enfin, il était le symbole des crises politiques sur l'accueil des migrants en Europe. Médecins sans frontières et SOS Méditerranée annoncent la fin des activités de l'Aquarius. Le bateau à quai à Marseille était sans pavillon depuis 2 mois.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 7 décembre. Reste à découvrir sur qui miser à Vincennes. Moi, personnellement, si j'ai un tuyau à vous donner, c'est de miser sur le plus fiable des experts hippiques. Un trotteur fougueux, sanguin parfois, mais toujours bien placé à l'arrivée. Moi, je mets tout sur le 7 Coco le Dingo. À l'état civil, José Coves. Bonjour, José.
Bonjour, vous me direz combien je vous dois, mon petit Mathieu.
Oui, je vous enverrai
ça. Ensuite, le 16 trotteur sur deux lignes derrière la voiture du starter ce soir à Vincennes, c'est la première ou la deuxième course, plutôt la deuxième course d'ailleurs. J'ai retenu en priorité le 6 Dorado Bello, je mise sur l'excellent Eric Raffin pour le mener à la victoire. Le 8 Don Camaro s'est souvent placé dans cette catégorie. Le 2 Dayton nous arrive des Pays-Bas au mieux de sa forme. Puis le 7 Dosimo, idéalement engagé. Quant au numéro 12, Dreamers Chenu, Jean-Michel Bazir doit le remettre dans le droit chemin. Trois autres possibilités, le 13 Devil of Angel. Écoutez un peu mon anglais. Devil of Angel, il visera une bonne place, de même d'ailleurs que le Velos d'Hermicache, le 14, toujours à l'aise sur ce départ lancé. Et enfin le 10, Délice Angevin, reste en quatrième sur ce parcours des 2100 mètres petite piste. Voici donc mon ticket pour cette deuxième course vers 20h15. D'abord le 6, le 8, le 2, le 7 et le 12. Et l'on ajoute le 13, le 14 et le 10.
Dites-moi José, Dayton le 2 nous vient des Pays-Bas. Je suppose qu'il ne fait pas le voyage pour rien.
Vous supposez bien, Mathieu. Le 2 Dayton est un trotteur français acheté par une écurie hollandaise. Il ne pourrait pas rater cet engagement. Il est sur sa meilleure distance. On lui a retiré ses fers. Il s'élancera sur la première ligne face à une opposition largement à sa portée. Je le vois bien voyager en première classe.
Merci, José Coves.
Il est 5h49.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1.
Debout
les copains, continue.
C'est dur de manger, boire et faire de la radio.
Mais pas
en
du
même
tout,
temps.
Je ne suis pas en train de manger, qu'est-ce que vous racontez? Ou un tout petit bol de quinoa, ah bah pas rien. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Mathieu Charrier pour la bande dessinée et pour les nouvelles technologies, le Rastignac sans scrupules, le bel ami sans état d'âme, personnage balsacien s'il en est, François Geffrier qui en 5 jours a réussi à avoir la peau de celui qu'il remplace, le titulaire du poste, hein, Grégoire Martinez. Profitant de son inexpérience et de son jeune âge, le rusé François Geffrier est en passe d'évincer notre petit padawan. Grégoire, réagissez!
Je ne me laisserai pas faire! Viens, si tu veux m'appeler, viens me battre! Tu vas avoir une mauvaise surprise!
On y vient, mais d'abord, respectons le protocole. Priorité au vice-chef adjoint délégué par intérim du service culture. Mais oui, c'est ce que vous êtes, le roi du cinéma et de la bande dessinée. Mathieu Charrier, on commence par vous. Vous nous parlez ce matin, Mathieu, de la dernière BD d'un maître du 9e art, Jacques Tardy. C'est le tome 3 de Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B.
Oui, ultime tome de cette trilogie dans laquelle René Tardy, vous l'avez peut-être déjà découverte, Papa Jacques, donc, lui raconte sa détention au Stalag 2B pendant la guerre de 39-45. Alors sur ce tome, le sous-titre, c'est justement Après la guerre, puisque c'est son retour que l'on va suivre. On imagine que ce retour fut joyeux, glorieux, mais en fait pas du tout. René va retrouver sa famille, sa femme, il va être très irascible, les privations sont toujours monnaie courante, parce qu'il faut le temps évidemment de refaire les stocks. Et puis vous savez, les soldats emprisonnés de retour, ils sont un peu considérés comme des losers, des perdants, c'est pas grâce à eux finalement qu'on ait gagné la guerre. Il y a aussi tous ces ex-collabos qui, pour se racheter une conscience, une image, tondent les femmes qui ont couché avec les Allemands. Certains sont même embauchés par l'administration française. Et puis René Tardy, bah, il faut qu'il travaille, il faut qu'il gagne sa croûte, donc il reste dans l'armée. Au retour de la guerre, écoutez bien, sa détention quand même, il a 30 jours de repos, c'est tout. Et c'est reparti, il est renvoyé en ZOF, la zone occupée française en Allemagne. Bref, c'est toujours une BD passionnante comme les deux premiers tomes, même si le récit cette fois est un tout petit peu plus décousu. Alors quand même, plus vieilli, plus tardi, laisse transparaître dans ses dialogues son antimilitarisme. Mais bon, on a de l'affection pour lui, alors ça passe. Et puis d'ailleurs, dans cette BD, il livre un peu comment est née cette vocation de faire de la bande dessinée. Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag 2B, tome 3, c'est donc chez Casterman.
Vous vouliez aussi nous parler, Mathieu, d'une BD conceptuelle signée Marc-Antoine Mathieu.
Effectivement, l'un de mes auteurs BD préférés, c'est dire. Alors, faut pas avoir peur du mot conceptuel. Vous savez, Marc-Antoine Mathieu pousse les limites du dessin, des perspectives au maximum. Et là, dans sa dernière BD, si je puis dire, qui s'appelle Trois rêveries, il va encore plus loin. C'est-à-dire que ça se présente dans une boîte noire et vous avez d'abord un lot de cartes qui se lisent ou se découvrent les unes après les autres pour former une sorte d'histoire.
C'est génial, le format lui-même.
Il y a aussi un parchemin qui se déroule et qui nous emmène dans une sorte de rêverie. Alors, ça fait plusieurs dizaines de mètres de long. Je l'ai déroulé
c'est
chez
génial.
Moi. Je vous explique pas le bazar.
Je cherchais une idée cadeau pour un ami féru de bande dessinée. Et je crois que je l'ai trouvé.
Je pense que vous pouvez lui faire plaisir. Et puis, il y a aussi un Leporello, vous savez, cette forme de livre façon soufflée. reflets qui se déplient. C'est une vraie expérience graphique. Il faut plonger dedans. Ça nous fait réfléchir sur le temps qui passe. Moi, je trouve ça magnifique. Effectivement, c'est une belle idée de cadeau de Noël. Ça coûte un peu plus de 30 euros. Ça s'appelle Trois rêveries de Marc-Antoine Mathieu. C'est chez Delcourt. Offrez-le.
Ça donne envie.
En voilà un tuyau qu'il est bon. Merci Mathieu Charrier.
Je vous en prie,
Mathieu. À vos côtés, il attend. Tapis dans l'ombre, prêt à exploiter la moindre opportunité d'avancement. François Geffrier, ce matin, vous nous apprenez à détecter une fake news. Rien que ça.
Oui, je vais tout de suite vous donner un exemple. Pas mal de photos ont circulé sur Twitter et Facebook de voitures cassées et brûlées le week-end dernier en plein Paris et elles n'avaient plus de plaque d'immatriculation. Alors certains en ont déduit que ces voitures n'étaient à personne et que les autorités les avaient récupérées à la fourrière pour les mettre là et prétendre ensuite qu'il y avait des casseurs. Mais le fil Twitter nommé AFP Factuel a travaillé là-dessus et a retrouvé d'autres photos avec les plaques ainsi que des vidéos où on voit des manifestants arracher les plaques d'immatriculation. Autre exemple, des militants de La République En Marche ont relayé ces derniers jours une prétendue info selon laquelle un site internet giletjaune.com avait été créé par des gens basés aux États-Unis et ce en mai 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Les gilets jaunes d'aujourd'hui seraient donc des marionnettes manipulées par les Américains. Cette fois, c'est sur le site Check News qu'on retrouve la réalité. Ce site giletjaune.com date en fait de 2015.
Et ces deux sites dont vous nous parlez, Check News et AFP Factuel, on peut leur poser une question ?
Exactement, leur principe de fonctionnement, c'est eux-mêmes d'aller vérifier les rumeurs qui circulent, mais aussi de répondre aux demandes de vérification qu'on leur fait. On peut donc leur écrire un message sur leur site ou sur Twitter.
Et si jamais on a envie de chercher par soi-même, sans faire appel aux journalistes de l'AFP ou de Check News, comment on fait ?
Il y a un outil qui est assez puissant pour les photos, ça fonctionne avec la recherche d'images de Google. Vous glissez une photo que vous avez repérée sur Facebook ou sur Twitter et qui vous intrigue, et là Google Images va vous trouver toutes les versions de cette image et les pages internet sur lesquelles on la trouve. Comme ça, vous vérifiez par vous-même et ça peut vous éviter de vous ridiculiser au prochain repas de famille.
Et puis vous vérifiez aussi les dates des articles que vous lisez, parce que souvent on reposte, vous savez, une info, un article
en fait
qu'on lit,
à 3 ans.
Et quand vous regardez bien la date, en fait ça date d'il y a 2, 3 ans, voire plus vieux que ça, et donc vous comprenez que c'est une fausse information aussi.
Oui, Eva Rock, bah, écoutez, puisque vous avez la parole, gardez-la. De quoi vous nous parlez ce matin, Eva ?
Eh bien, de la saison 2 d'un programme court à voir sur Canal+, qui s'appelle Le Roi de la Vanne. Alors, c'est diffusé le dimanche à 13h50 en clair ou sur le site de la chaîne, vous allez retrouver tous les épisodes et même sur YouTube. C'est une fiction imaginée, écrite et jouée par un humoriste belge drôlissime, Guillermo Guise. Il incarne presque son propre rôle. Dans la saison 1, on le retrouvait chroniqueur à la télé, alors chroniqueur pas franchement doué. Et puis, il a enchaîné en tant qu'acteur sur une comédie bien pourri. Lui est convaincu de son talent et il tente de percer au cinéma. Alors à chaque épisode, vous verrez, il y a une personnalité comme Jonathan Cohen, Alison Wheeler, Florence Foresti. Florence Foresti, vous la verrez dans l'épisode de dimanche, ou encore Vincent Cassel. Et dans l'extrait qui suit, eh bien, il présente sa fiancée à ses parents. Discussion sur les stars de télé.
De quel Arthur tu parles ?
Quel Arthur, mon... Tu connaissais encore Arthur, toi ?
Ah, Arthur !
Bah ouais, Arthur.
Moi, j'ai jamais aimé, moi, Arthur. Je trouve qu'il est vulgaire.
Mais non, c'est pas Arthur qui est vulgaire. Le vulgaire, c'est Nikos.
Ah bon ? Vous trouvez que Nikos, il est vulgaire ?
Bah, il est pas vulgaire, Nikos. Je le connais, c'est une crème.
Bah, tu peux être une crème vulgaire.
Alors, la discussion va vite vriller sur des stéréotypes. Et la fiancée, elle a aussi une position sur la question.
C'est pas un gros cliché de dire comme quoi les Belges sont super simples et que les Parisiens, c'est des fils de pute ?
What ?
Mais quoi, non, mais c'est vrai, je sais pas, je trouve que c'est une généralité, c'est tout, t'as vu ?
Enfin, lâche l'affaire.
Mais comment ça, lâche l'affaire ? Mais moi aussi, je pourrais dire du mal de tes compatriotes, pourtant je le fais pas. Je sais pas, hein, on vous a massacré la gueule pendant la Coupe du Monde, on vous a niqué, c'est tout. Maintenant, c'est pas grave, faut passer à autre chose, on vous a plié la gueule, ça arrive.
Vous imaginez la réunion de famille. Alors, chaque scène est réussie, c'est drôle et absurde, c'est bien écrit. Et évidemment, tout repose sur les vrais talents de comédien de Guillermo Guise, qui sera d'ailleurs sur la scène du Bataclan les 27, 28 et 29 décembre. Je vous encourage à aller le voir. L'intégralité de la saison 1 est disponible soit sur le site, soit sur YouTube. Et la saison 2, pareil, vous la retrouvez sur le site ou en clair à 13h50 dimanche.
Merci beaucoup, Eva Rock. Mathieu, comment vous trouver Eva ?
Là, j'étais pris dans un tourbillon d'émotions.
Pas n'importe quoi non plus. Merci à toute l'équipe de Vendredi et bon tuyau.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Acosta et le journal de 6h de Sébastien Krebs.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Acosta. Le soleil résiste sur l'extrême sud.
Oui, c'est déjà ça. Et c'est ça depuis plusieurs jours d'ailleurs. Des Pyrénées aux Alpes ce matin, cet après-midi sera toujours présent et les éclaircies gagneront également tout le flanc est. Pour les autres, c'est encore une journée bien nuageuse. Quelques éclaircies ce matin au sud de la Loire, mais un ciel bien couvert. Pour les autres, avec une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest en fin de matinée, avec elle des averses soutenues entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie. Perturbation qui va se décaler vers l'est et le sud, puisqu'on va retrouver ces averses entre le Poitou-Charentes
Charente, l'Aquitaine et le Grand Est en début de soirée. Paris devrait être arrosé en fin d'après-midi. Le vent, lui, accompagnera ces averses de bonnes rafales puisque cet après-midi, on atteindra les 80 km à l'heure dans les terres, 100 km à l'heure près des côtes de la Manche.
Un mot des températures qui restent douces.
Oui, même si on perd déjà quelques degrés avec cet après-midi. 10 degrés à Brest et Rouen, 11 à Metz, 12 à Paris, 14 à Lyon, 16 à Toulouse et Nîmes, 17 à Montpellier, 18 pour Ajaccio. Ce matin, la moyenne va de 5 à 13 degrés.
Merci Céline.